Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone en direct, Bernard Hitzik.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup. Alors, ma première question, ça porterait sur le départ de votre travail créatif vers 1955. Vous vous orientez directement vers la poésie sonore. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de cette forme de faire de la poésie?
Oui, écoutez, il se trouve que la décade des années 50 était une décade sur le plan créativité poétique assez sinistre. On assistait, si vous voulez, aux dernières flamèches du surréalisme avec une inflation d'images qui dégoulinait de partout. On assistait à l'inverse, à l'apparition de la poésie blanche, qui a fait ses petits depuis et que je ne veux pas minimiser du tout, mais c'était donc le poème qui se résumait à 2-3 mots par page, comme ça, n'est-ce pas, très, 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 très ramassé sur lui-même. Le poème devenait quelque chose d'extrêmement réduit. Et puis, il y avait quelques autres courants, comme l'école de Rochefort, un peu pastorale, tout ça. Enfin, tout ça n'était pas du tout excitant. Et en plus, personne ne lisait plus de poésie. Donc, à partir du moment où on y croyait encore, je venais de publier un petit livre chez Segers. J'avais vu ce que c'était que la circulation de la poésie. C'était nul, n'est-ce pas? C'était un livre lu par 3 copains et tout ça. Bon, tout ça n'était vraiment pas satisfaisant si on y croyait encore. Je me suis dit, mais le poème, il est passif, là, comme ça, sur le papier, dans le livre, au fond du livre, parce qu'en plus de ça, il a joué avec le lecteur pendant des décades, n'est-ce pas? Il s'est caché, il a torturé le lecteur, qui finalement en a eu assez, et puis qui a dit, ça, moi, je vais vers le roman. Et c'est comme ça. Alors, je me suis dit, il est donc passif à attendre un lecteur qui est devenu de plus en plus hypothétique. Il faut faire quelque chose. Alors, quoi faire? Il faut m'a-t-il semblé à l'époque le rendre actif, c'est-à-dire pour ça il faut le sortir du papier, du livre, de la page et le transmettre directement à un lecteur auditeur qui devient auditeur. Alors j'ai donc c'était un tournant radical comme ça en 55 à partir de cette décision et j'ai commencé à faire une série de ce que j'ai appelé des poèmes partitions par référence à la musique, c'est-à-dire que ces poèmes sur le papier avaient une disposition qui m'en facilitait la lecture, me donnant par des espaces, je ne sais pas, les intensités, le rythme, ça n'avait rien à voir évidemment avec une partition musicale. C'était extrêmement simple, mais en même temps ça me permettait de lire à haute voix un poème. Ça m'en facilitait la lecture. Alors, j'ai donc fait cette série de poèmes partitions, comme ça, et puis, en 59, pendant 4 ans, et puis en 59, après, j'ai lu ce texte devant des publics extrêmement restreints, chez moi, ou comme ça, mais quelqu'un, justement, me dit, mais il faut absolument les enregistrer, tout ça. Donc, comme il travaillait à la radio, il m'a emmené dans un studio, non pas pour une émission publique, mais on a utilisé un studio particulier comme ça, et il m'a fait enregistrer pour la première fois. Et puis il m'a dit, il faut acheter un magnétophone. Ce que je me suis précipité à faire, c'était, vous savez, à l'époque, des magnétophones rudimentaires, très simples, qui étaient mono, qui ne permettaient pas grand-chose. Mais tout de même, d'une part, j'ai commencé par y enregistrer les diverses poèmes partitions que j'avais fait depuis 4 ans. Et ça, c'était déjà important parce que c'était déjà la découverte de sa voix. Alors, on se rappelle l'importance que ça a été pour Apollinaire quand il a, en 1913, eu l'occasion d'enregistrer pour la première fois. Ça a été une révolution pour lui, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, oui, c'est normal parce que, en fait, on ne s'entend pas. Donc, le fait de pouvoir s'entendre comme ça sur bande, c'était une possibilité d'abord de se juger, de se corriger éventuellement et tout ça. Enfin, bon. Et puis, en plus, assez rapidement, enfin, même avec ces magnétophones rudimentaires, je me suis aperçu qu'on pouvait intervenir sur la bande de façon très empirique, c'est-à-dire avec des ciseaux. Par exemple, si je voulais accélérer un texte qui était enregistré, je coupais les respirations. Donc ça donnait au texte une précipitation comme cela, qui en changeait complètement le rythme. Et puis je pouvais enregistrer des bruits extérieurs et faire des collages, enfin des choses simples comme ça. C'était un peu du cut-up. Il se trouve que Brian Gazin, dans son hôtel, le Beat Hotel, que je ne connaissais pas à l'époque, inventait le cut-up lui-même, et qui a fait Flores, n'est-ce pas, puisque tellement de gens ont utilisé cette méthode. Moi, c'était, en quelque sorte, du cut-up avec des ciseaux sur une bande magnétique, comme ça.
C'était du cut-up sonore.
Oui, c'était important, parce qu'ensuite, les magnétophones se sont améliorés, et puis ils nous ont permis, parce que je n'étais pas le seul dans ce courant comme ça, nous ont permis d'évoluer et de perfectionner notre travail. Voilà.
Alors, je voulais insister par cette question pour dire que dès le départ, vous faites de la poésie sonore, c'est-à-dire que vous n'aviez pas déjà une œuvre constituée, puis petit à petit vous êtes mis à la poésie sonore, donc vous nous avez parlé tout de suite de votre réflexion là, que vous avez eue dès le départ. Est-ce que j'aimerais revenir sur le geste fondateur des poèmes partitions, parce que vous en avez fait de nombreux, des poèmes partitions?
Oui, écoutez, le premier, on peut dire, le premier, c'est le poème partition sur la lettre V. Il se trouve que, pourquoi la lettre V? Parce que ce poème s'est voulu un hommage à la ville, avec un grand V, n'est-ce pas? Parce que j'aime la ville, à la vitesse, et au compositeur franco-américain Edgar Varèse, que je découvrais par des disques à l'époque, des vinyles, qui était importé des États-Unis, parce que lui-même, à ce moment-là, vivait aux États-Unis. Et donc, ça a été un choc, parce que c'était une musique très, très citadine, comme ça, avec même, il a introduit même dans sa musique des bruits de sirènes et des choses comme ça qui ont suscité du reste, lors d'un de ses concerts au Théâtre des Champs-Élysées en 54, un scandale, n'est-ce pas? Les gens ont hurlé comme ça. Bon. Mais moi, ça m'a passionné, au contraire. J'ai fait ce premier poème partition comme ça, sur cette lettre V, c'est-à-dire c'est une journée qui démarre à 1h du matin comme ça et qui va jusqu'à minuit, et c'est une journée dans la cité, dans la ville, avec ses turbulences, ses animations et tout ça, voilà. Et moi-même je travaillais dans une entreprise, dans une banque en fait, et donc j'étais au cœur de surtout dans le quartier où j'étais, c'est-à-dire le quartier de la chaussée d'Antin, comme ça, un carrefour, au cœur de cette animation économique et sociale, voilà. Alors ça a été un texte important comme ça de démarrage, radicalement haute de ce que je faisais jusqu'à présent, que j'avais édité donc chez Segers dans ce petit livre, c'est tout dit, mais ça a été important, et donc ensuite il y en a eu un certain nombre d'autres par la suite, jusqu'au moment où j'ai acheté ce magnétophone en 59.
Alors justement, parlez-nous de ces enregistrements, de cet achat du magnétophone. Vous avez dit que vous utilisiez des ciseaux pour couper la respiration, pour changer le rythme, c'est-à-dire qu'immédiatement vous achetez un magnétophone et là vous avez envie de travailler sur le constituant de la poésie, qui est le rythme et la respiration.
Oui, c'est ça. J'achète ce magnétophone en 59. Et la première chose que je fais, c'est évidemment d'enregistrer les premières partitions que j'avais réalisées depuis 55. Ok, très bien. Alors ça, c'était un simple travail d'enregistrement, de découvrir le magnétophone. Vous savez, c'était un instrument qui n'était pas très ancien, qui a été inventé une dizaine d'années auparavant, enfin comme ça. Et donc, je le maniais avec non seulement précaution, mais avec appréhension. J'avais un peu peur, comme ça. Donc il y avait, au moment où on enregistrait, des hésitations et tout ça. Alors, tout ça a pris du temps. Et puis, une fois que je me suis senti plus à l'aise avec lui, je me suis aperçu, après tout, que dans l'évolution de mon travail, je voulais changer un peu justement le rythme des textes, et c'est comme ça que j'ai quasiment pris des ciseaux pour couper pour un texte les respirations, pour en accélérer le rythme. Et puis j'ai aussi cisaillé une bande enregistrée comme ça, et puis j'ai recollé les morceaux les uns après les autres, ce qui a créé un texte assez heurté comme ça, auquel j'ai rajouté ensuite des bruits de la rue, des cris d'enfants dans la rue, des choses comme ça. C'était l'apparition pour moi d'un univers avec une nouvelle dimension qui devenait une dimension sonore, une dimension dans l'espace, le texte étant projeté dans l'espace, qui reflétait une sorte d'environnement et de rythme qui était celui que je recherchais. Voilà.
Et alors tout de suite, ce travail sur la bande, ce travail d'enregistrement, vous voulez le présenter au public. Tout de suite, ce travail, vous le présentez en public.
Oui, ça a pris quelques années quand même, parce que ma première lecture publique date de 1963, l'American Center du boulevard Raspail, qui était un lieu chaud de Paris où il se passait beaucoup de choses, qui a été remplacé maintenant par la Fondation Cartier. Mais à l'époque, c'était donc l'American Center pour les étudiants, et où on entendait la musique ultra-contemporaine, où on voyait les films underground de l'époque, où il y avait des lectures, du free jazz et tout ça. C'était un lieu où il se passait beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, il se trouve que en décembre 1962, j'ai trouvé dans une galerie un prospectus d'une manifestation qui se passait là, qui s'appelait Fluxus Fluxorum. Alors j'ai regardé tout ça, mais bon, je ne connaissais personne dans cette manifestation qui durait toute la semaine, sauf ces derniers soirs, où du reste, sur ce papier, l'appellation changeait et s'appelait Poésie ouverte, poésie ouverte, domaine poétique. Ok. Bon, alors j'y suis allé dès le lundi, et je suis tombé sur Fluxus, le groupe Fluxus, qui arrivait de Copenhague. C'était sa troisième manifestation, et j'ai été très, très, très bouleversé par ce que je voyais. Je me suis dit, mais c'est exactement comme ça que je vois la présentation de la poésie sur scène, n'est-ce pas? C'était très rigoureux, très, 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 très précis. C'était pas du tout du happening. Non, pas du tout. C'était très précis. Et ça m'a... Bon, alors, j'ai été convaincu, et je suis revenu le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et le vendredi, et le samedi. Par contre, il n'y avait personne on était une dizaine pendant toute la semaine, et le samedi, c'était archi-comble. Et là, il y avait François Dufresne, que je connaissais, c'était quasiment le seul, avec Jean-Claude Flambert, qui semblait être l'organisateur. C'était les deux seuls. Les autres participants de cette soirée, c'était Brian Gagin, dont je découvrais son fameux « I am that I am », ce fameux poème, et puis Gerasim Luka, qui donnait son quart d'heure de culture métaphysique, et puis Robert Schill. Alors c'était pas mal pour une semaine d'avoir découvert tout ça. Bon, et il se trouve que le domaine poétique a refait trois soirées, six mois plus tard, toujours à l'American Center, en mai 63, et séance auxquelles j'ai été invité à participer, ainsi que, en plus des autres, les mêmes de la première soirée, Kemet Williams, un poète américain qui appartenait à Fluxus et qui vivait à Berlin et qui vient de décéder. Et donc, c'est donc en mai 63 que j'ai fait ma première apparition sur scène avec un texte qui s'appelle Poème Partition B2B3. Et ça a été ma première intervention publique, comme ça, voilà. Alors, et je vais donner la dernière à la fin du mois d'avril prochain, dans un centre d'art. Ça fera presque 600 manifestations, 600 lectures publiques, un peu dans une vingtaine de pays, comme ça. Voilà, c'est la boucle se termine, voilà.
Alors, la boucle se termine, et je voulais parler, du coup, de vos pièces visuelles, c'est-à-dire de vos œuvres plastiques, de ces tableaux. Alors là, on peut en voir actuellement à la médiathèque de Saint-Jean-de-Larvelle. Et dans ces tableaux, on retrouve les bandes amorphes que vous utilisez dans vos enregistrements. Est-ce que vous pouvez me parler de cette série qui est actuellement à la médiathèque de Saint-Jean-de-Larvelle?
Oui, absolument, parce que...
C'est mon frigo qui a lâché.
J'ai, en parallèle avec l'activité poétique poésie action ou poésie sonore, en parallèle à cette activité, qui était quand même l'activité principale dans ce domaine, j'ai toujours eu cette activité plastique, en quelque sorte, Et notamment en commençant par des séries. C'est comme ça que j'ai commencé une première série en octobre 70, en faisant 100 planches autour du thème des foules, avec des photos de foules et des textes autour. Et ensuite, dans ces planches, ensuite il y a eu Canal Street et tout ça, mais j'ai, par connivence avec l'activité de poésie Action et Orale, où j'utilise le magnétophone, j'ai introduit un effet sur ces planches, très souvent, de la bande magnétique. Donc, pour faire qu'il y ait un lien vraiment entre la partie plastique et la partie sonore, ou la partie action, c'est-à-dire même la partie qui est importante, la lecture sur scène, parce que c'est l'objectif final de chaque texte, c'est d'être lu comme ça publiquement, n'est-ce pas ? Il y a la première phase qui est la phase de l'écriture, à partir du moment où je trouvais le thème d'un texte, d'un poème, donc la phase d'écriture. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de l'enregistrement, avec éventuellement des ajouts, des manipulations sur la bande, tout ça. Et puis, la troisième phase, c'est de réfléchir à la façon dont le texte qui vient d'être achevé sur bande doit être transmis en public. Chaque texte peut requérir un mode de lecture différent. Il s'agit de le rendre le plus évident, le plus clair, le plus manifeste possible. Et ça, c'est important quand on fait précisément une lecture à l'étranger devant un public qui ne comprend pas votre langue. Donc, il faut donc le donner de telle sorte que la façon dont on va le donner lui donne un éclaircissement, ou lui donne en tout cas le maximum de clarté. Alors, ça c'est important, c'est donc la troisième phase, et donc il s'agit de bien réfléchir à la façon dont on lit. Alors, je reviens à la partie plastique, parce qu'en effet, tout au long de ce travail de poème sonore, comme ça, en effet, je n'ai pas... En parallèle, j'ai continué à faire des séries de planches et je continue encore maintenant. Voilà.
Je vais avoir une dernière question. Votre travail a une immense influence chez de nombreux poètes qui pratiquent la performance actuellement. Qui voyez-vous comme continuateur aujourd'hui de votre travail ?
Écoutez, je voudrais pas donner de nom comme ça, mais ce que je peux dire, c'est que je trouve une effervescence autour de moi, enfin, pas due à moi, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais je trouve une effervescence dans une génération ou deux qui me suivent comme ça, un peu partout répartis en France, dans différentes villes, mais ça, qui est formidablement active. Alors, ils se connaissent tous, tout ça, ils font des lectures ensemble, ils font des revues, ils font des festivals, des CD et tout ça, et tout ça, et chacun a sa personnalité, chacun est très différent, et donc je trouve qu'il y a vraiment une vitalité absolument formidable. D'ailleurs, on le voit parce que je reçois des cartons d'annonces de lecture à droite et à gauche des uns et des autres, n'est-ce pas, tout le temps, c'est formidable. Donc d'abord, de fait, je pense quand même là principal de toute cette activité que avec d'autres j'ai mené, enfin quand même, mais parce que je suis pas du tout le seul, mais c'est tout de même la reconnexion de la poésie avec la société. C'était notre but, après tout. Elle était complètement occultée et tout ça, et même si les médias n'en parlent pas ou la considèrent toujours comme le parent pauvre de la littérature, elle est très active, et il y a maintenant sans cesse des festivals qui se déploient dans plein de villes, tout le temps, et des lectures individuelles ou collectives comme ça, de trois personnes qui sont invitées dans des centres d'art, dans des médiathèques ou tout ce qu'on veut, en permanence. Et ça, c'est un phénomène complètement neuf, n'est-ce pas, quand même. Et ce que l'on constate, c'est que le public vient. Bon, alors ça, c'est quand même... Et il remplit les salles. Donc, c'est quand même satisfaisant de se dire que on a tout de même contribué à réveiller un peu la poésie, à la rebrancher sur son environnement, sur la société dans laquelle elle se trouve, tout ça. Alors qu'elle faisait tout pour s'en détacher, pour devenir ésotérique et tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, pour devenir absconde et incompréhensible. Non, là, vraiment, c'est il me semble, le côté satisfaisant, c'est de voir qu'elle a repris vraiment pied dans la société. Voilà.
Ben merci beaucoup Bernard Hetzig d'avoir répondu à nos questions. Merci vraiment infiniment d'avoir été là au téléphone en direct avec nous. Merci beaucoup.
Bonsoir.